بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous réunit ce soir quelques instants pour essayer de comprendre cette qualité d'Allah Azza wa Jal, Allah qui est Ar-Razzaq. Et Ar-Razzaq, c'est celui qui accorde la subsistance. Et on avait vu qu'il y a deux catégories de rizq. Il y a le rizq aam, la subsistance qui est générale, qu'Allah accorde à tout le monde. La nourriture, tout ce qui est nécessaire pour une personne pour vivre. Et puis, ce qu'on a commencé à voir la dernière fois, mashallah, on a les frères d'Atanier qui ont fait le déplacement. Allah ybarik fik. Allah ybarik fik. Et on a ensuite le rizq khas, une subsistance qui est particulière, qu'Allah accorde à qui il veut. Et c'est vraiment ce point que nous devons développer. Parce que les savants disent que malheureusement, l'être humain se perd. Il se perd à travailler le rizq aam, à essayer de l'obtenir. Il va orienter sa vie, il va faire des efforts uniquement pour obtenir un rizq qui lui a déjà été prédestiné. Et un rizq qui ne lui sera plus d'aucune utilité après sa mort. Allah peut accorder, mashallah, une nourriture suffisante. Allah peut accorder un toit. Allah t'accorde une famille. Allah t'accorde des biens. Alhamdulillah, ça fait partie de ce qu'on appelle le rizq aam, la subsistance générale. Mais ne te fais pas de soucis pour ça. Il y a une parole qu'on a lue tout à l'heure, c'est tout simplement magnifique. Une citation, si je le retrouve. Ah, on sait, bon, c'était pas, on n'allait pas le faire tout de suite là, mais l'auteur dit fa inna ar-rizqa wal ajal qarinani madmunani fa ma dama al-ajal baqiyan kana ar-rizq atiya. Ce qu'il veut dire, c'est que la subsistance ainsi que la vie, les jours que tu dois vivre, ce sont deux choses qui avancent de la même façon. Enfin, ce qu'on peut expliquer à travers cette citation, c'est que sache que Allah t'a accordé un nombre de jours sur terre. Allah t'a accordé un nombre de jours sur terre. Et personne ne pourra retirer un jour qu'Allah t'a accordé. Sache que le rizq et la subsistance. Ah, si tu peux éteindre, s'il te plaît. Insupportable, c'est 27. Il y en a 10. Et subhanallah, j'attendais que ça. Et la subsistance, Allah te l'a déjà prédestiné. C'est-à-dire que chaque grain de riz, que ce soit riz thaïlandais ou basmati ou peu importe, chaque grain de riz, mashallah, c'est déjà dans ton rizq. Et personne ne pourra retirer ce qu'Allah t'a prédestiné. Et en prenant conscience de ça, ça nous permet d'évacuer immédiatement tout ce qui est en rapport avec la jalousie. Tu vois une personne qui a un bienfait beaucoup plus que toi, une réussite dans sa profession, dans sa vie familiale et ainsi de suite, ben, il ne faut pas que ta poitrine se resserre et que tu sens une frustration et que tu éprouves de la jalousie. Parce que c'est dangereux la jalousie, hein, Ya Ali. La jalousie, quel professeur m'a dit, détruit les bonnes actions comme le feu détruit le bois sec. Je peux être quelqu'un de, en apparence, grande barbe, avec des diplômes, avec qui dégage plein de choses, mais j'ai le cœur qui est pourri. C'est possible. Et qui peut dire que lui, il est bon, lui, il n'est pas bon, lui, il est bon, lui, il n'est pas bon? Allah seul le sait. Il n'y a qu'une personne peut, en apparence, être quelqu'un de très bien et, mashallah, admiré, admirable, mais intérieurement, avoir cette maladie spirituelle qui est la jalousie. Un vilain défaut? Non, ce n'est pas un vilain défaut, la jalousie. C'est une maladie spirituelle. Et la maladie spirituelle, elle se greffe sur l'ignorance. Et cette ignorance, elle est axée sur quoi? Ignorance sur le fait qu'Allah est Razzaq. Allah, c'est lui qui donne. Allah donne à qui il veut. C'est-à-dire que quand moi, je suis jaloux de mon frère, c'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est lui mon problème, c'est son bonheur qui me gêne. Mais en fait, là, en réalité, si je suis jaloux de lui, c'est que je reproche à mon Seigneur de lui avoir accordé plus que moi. Alors que c'est lui qui décide s'il donne telle chose à telle personne et il ne donne pas à d'autres personnes pour une sagesse que lui seul connaît. C'est-à-dire que le jaloux, il a un problème dans Al-Iman Billah. Il a un problème dans sa confiance en Allah. Et la plupart des problèmes de notre société, problème de couple, enfin non, problème de couple, on ne va pas parler de jalousie, non. Dans le couple, il faut être, il y a un autre terme, ça, en arabe, on parle de rira. Ce n'est pas hasad. Hasad, c'est péjoratif. Dans le couple, on parle de rira, c'est de l'amour propre. L'amour propre, ça, c'est impératif, ça, d'accord? Mais je veux dire, dans les bienfaits du dunya, dans le partage des biens, l'héritage, dans l'attribution de marché ou de peu importe, ce qui ronge notre société, c'est al-hasad, la jalousie. Et pour remédier à ce problème spirituel, c'est justement replacer sa confiance en Allah et être conscient que c'est Allah qui accorde. Allez, on a un peu machin. Et donc, tout comme personne ne peut enlever un jour de ta vie, ça c'est dans les mains de Dieu, personne ne pourra enlever la nourriture de ta bouche, la subsistance qui t'est prédestinée. Donc, personne ne pourra l'enlever et personne ne pourra rajouter non plus ce qui ne lui est pas prédestiné. Donc, ne sois pas envieux, ne sois pas jaloux, ne sois pas mécontent, parce que tout ça, ce sont des manifestations d'ingratitude envers Allah. Et le croyant ne peut pas se permettre d'être ingrat. Peut-être qu'Allah t'a ouvert des portes de bienfaits. Tu as été au Hajj, mashallah, tu as fait tellement de bonnes choses. Mais au quotidien, quand tu vois une personne qui possède quelque chose que tu n'as pas, comme il dit en créole, le vent, il fait mal. Le vent, il fait mal. Il y a des gens, Allah Musta'an, qui ont... Puis ça, enfin, il n'y a pas besoin d'être un grand, d'avoir des dons pour ça, mais ça se voit dans les yeux. Il y a des gens qui voient le regard se pose sur les bienfaits. Et comme il dit en créole, le râle-cœur. Il y a de belles expressions chez nous, hein. Je ne sais pas si c'est culturel. Le râle-cœur, c'est la personne qui n'arrête pas d'admirer ce que tu as. Et ça met parfois le propriétaire mal à l'aise, on comprend. Mais tout ça, ça découle de maladies spirituelles, faiblesse dans Iman Billah. Vous savez, ça c'est un conseil, un cher qui m'avait donné une fois. Il dit que quand tu as un ami qui a cette maladie, prends des distances avec cette personne. Parce qu'il y a des personnes qui ont un regard tellement pesant, tellement, je n'ai pas envie d'utiliser ce terme, mais malsain, ils ne font pas exprès Masakin, c'est leur faiblesse de foi, que cela peut être préjudiciable. On connaît le haine, le mauvais œil, ce sont des choses qui sont réelles, ce n'est pas de la superstition, de l'important de laisser de la protection. Mais je veux dire que la personne qui arrive à comprendre que tout est dans les mains d'Allah, c'est Allah qui accorde, yarzuqu man yasha, la personne peut se débarrasser de cette maladie qui est la jalousie. Parce que la jalousie peut entraîner énormément de choses. Le fait de rompre les liens avec la famille, le fait de colporter des rumeurs sur une personne pour le nuire ou autre chose, ça peut aller même jusqu'à sihr, la sorcellerie. Mon voisin a ouvert un commerce et il travaille mieux que moi, il est plus intelligent, il sait comment placer ses marchandises, bref. Son commerce tourne bien, le mien non. Ben, je vais, na'oud billah, essayer de trouver des moyens pour le faire chuter, ainsi de suite. Et là, on rentre du shirk. Là, on rentre du shirk. Et tout ça, l'origine, c'est quoi? Al-hasad. Et nous devons donc demander protection contre cette maladie spirituelle. Ainsi donc, parmi les bienfaits, le rizq khas, qu'Allah accorde à qui il veut, on a vu que, je reprends ce qu'on a dit dans l'introduction, ne fais pas du rizq am une obsession. Ça, c'est dans les mains d'Allah. L'espérance de vie, la subsistance, c'est ce qu'Allah accorde aux gens qu'il aime, mais également aux gens qu'il n'aime pas. Pharaon, Qarun, des ennemis de l'islam, mais ils étaient immensément riches, puissants, ils avaient un royaume que personne n'a pu rivaliser après eux. Mais le fait qu'Allah leur a accordé toutes ces choses, ça ne veut pas dire que c'était une manifestation d'amour d'Allah pour eux, aucunement. Donc le rizq am, Allah donne à qui il veut, ne te n'en fais pas une préoccupation. Bien sûr, tu travailles, tu fais ce qu'il y a à faire parce que obtenir ta subsistance licite, comme on dit, la sueur de son front, c'est également une bonne action. Ce qui doit nous intéresser, c'est al-rizqul khas, la subsistance spécifique. Et ça, Allah l'accorde uniquement aux gens qu'il aime. Et on avait vu la dernière fois que premier bienfait qu'Allah peut accorder à une personne, c'est une foi, un iman sahih, rasikh. Une foi qui est bien ancrée, un iman qui a des bases solides. Et un iman, une foi en Allah, écoutez bien l'enchaînement, qui t'amène vers l'ibada, l'adoration. Ce n'est pas juste je crois en Dieu, j'aime Dieu, Dieu est amour, Dieu est dans mon cœur et j'aimerais voler comme des petits des bisounours. Ce n'est pas comme ça que ça marche. L'islam n'est pas une religion d'amour et de belles paroles. C'est une religion de foi, d'amour pour Allah qui doit se concrétiser par les a'mal, a'mal salih. Donc, la foi correcte qui est bien installée, qui est stable, qui est cohérente, qui est productive, c'est mashallah ce iman qui est dans le cœur qui t'amène à accomplir le maximum de bonnes actions, à t'éloigner des péchés et qui te permet de placer une confiance inébranlable en Allah. Là, franchement, tu es comblé. Et c'est le fameux lien entre Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Tout est dans la Fatiha. C'est uniquement toi que nous adorons et c'est en toi que nous plaçons notre confiance. Les savants disent, plus une personne, un croyant, va adorer Allah, quand ton cœur s'oriente vers Allah, mais correctement. C'est pas un ibadah que tu fais par héritage culturel ou par tradition, par habitude ou autre chose, une routine. Parfois, il y a des gens qui, je ne juge personne, hein, des gens qui viennent prier, mashallah, Allah les accepte pour venir. Mais ils ont en même temps un comportement déplaisant. Ils vont veiller, surveiller si quelqu'un, lui, il est bien habillé, est-ce qu'il a son bonnet, est-ce qu'il a fait ci, il a fait ça. C'est-à-dire que tu viens de l'ibadah, en même temps tu dénigres les gens, en même temps tu causes du tort à ton prochain. C'est ça, ibadah? Non, ibadah. Tu viens pour Allah, tu es sincère, ton cœur est rempli d'humilité, rempli de dévotion. Tu attendais, depuis que tu marches dans la maison, comme notre frère Saïd, mashallah, qui a fait des blasphèmes depuis le latin, ça c'est bien ça. Je voulais presque le dire dans le message, que celui qui prend un chemin pour apprendre la connaissance, Allah ouvre les portes pour lui, subhanallah. Les anges étalent leurs ailes pour la personne qui va à l'apprentissage de la connaissance. Et quand on dit, c'est une parenthèse, talabul ilm, c'est pas que tu vas faire un alim direct, c'est temps, c'est pas que ça. Si tu le fais, khair. Mais si tous les jours tu as une heure de dars, une heure tu vas à tel endroit, une heure à tel endroit, subhanallah, tu te déplaces, ça c'est ni'ma. On revient, on disait donc que quand on quitte notre domicile pour venir, notre cœur bat. Et notre cœur, oui, notre cœur bat, c'est important, hein, c'est très important. On va dire notre cœur bat pour Allah. Notre cœur bat pour Allah. Et c'est comme si qu'il y a une motivation. On attend un moment important. C'est quand je pose mon front sur le sol. Et là, tu te délectes du halawatul iman, de la douceur de la foi et du bonheur que te procure la prosternation. Pas la prosternation, on est dans le sijda, on lit pas, on pense à plein de choses, on s'assoit, on fait les sijda. Dans le sijda, on a pensé au budget de décembre, dans le deuxième sijda, aux vacances de janvier. Wallah musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nasallallahu as-salamat al-afiyah. Wa an yatouba alayna jami'an. Qu'Allah nous pardonne et nous protège. Et s'il y a des manquements comme ça, qu'Allah nous pardonne et purifie nos cœurs. Donc, c'est ça le ibadah. C'est l'amour pour Allah qui se concrétise par de bonnes œuvres, l'éloignement du péché et qui te permet de placer une confiance en lui. Et qui dit placer une confiance en lui, ça veut dire savoir que c'est lui qui donne tout. Ça implique le fait que tu intègres qu'Allah est Razak et que du coup tu n'as pas à être jaloux, à être malveillant, à espionner ton prochain, à chercher les défauts des gens, ainsi de suite. Tu sais que tout ça, c'est des choses qui n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire qu'une foi qui est bien placée, qui est stable et qui est productive, ça te guide vers le sirat al-mustaqim directement. Et quand on dit « ihdina sirat al-mustaqim », c'est le droit chemin. Et si on compare avec d'autres versets, hadifa le verset, j'essaie de m'en rappeler, « wala tattabi'u subula », mais ce qui vient avant, je cherche le verset qui vient avant, le début. وهذا صراطي مستقيما بارك الله فيك وهذا صراطي مستقيما et voilà le sens du verset inna hada certes voilà mon chemin droit fattabi'uhu suivez-le fattabi'uhu qui s'adresse à qui c'est Allah qui dit à ses serviteurs ittabi'uhu suivez ce droit chemin wala tattabi'u subul ne suivez pas les différents chemins qui mènent vers d'autres destinations ou qui se basent sur d'autres choses. Donc celui qui, mashallah, a cette vision de la foi, ben c'est quelqu'un qui va avancer vers le droit chemin. Donc ça c'est un premier ni'ma, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Des fois qu'on récapitule, on prend, je sais, la moitié du dars, mais khair, qu'Allah nous accepte malgré ses manquements. Et la citation de l'auteur, فَإِذَا رَزَقَ اللَّهُ الْعَبْدَ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْإِيمَانَ الصَّحِيحِ وَالرِّزْقَ الْحَلَالُ وَالْقَنَاعَةَ بِمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْهُ فَقَدْ تَمَّتْ أُمُورُهُ وَاسْتَقَامَتْ أَحْوَالُهُ الدِّينِيَّ وَالْبَدَنِيَّ On avait lu ça la dernière fois, non ? Si, s'il me semble, hein, que l'auteur cite cinq catégories de rizq khas, de bienfaits spirituels qu'Allah accorde à qui il veut. C'est des choses que Allah met dans le cœur d'une personne. Il y a des gens qui vont grandir avec cette qualité de foi. Et ce sera à eux de fructifier cette qualité et de faire en sorte de profiter de ce qu'Allah leur a accordé comme bienfait spirituel. Parmi ces bienfaits, le tawassit al-ilm an-nafi', une connaissance qui est profitable. Après, bien sûr, pour avoir la connaissance, on ne va pas naître savant. C'est-à-dire que Allah guide ton cœur, guide ton taqdir, ton destin vers l'apprentissage de la connaissance religieuse. Allah te facilite l'accès au ilm. Ça, c'est un grand bienfait. Ce que nous faisons là, à une petite échelle, bien sûr, c'est, comme on l'expliquait dans le tafsir la dernière fois, c'est comme le prophète, alayhi salatu wassalam, pas de comparaison, hein, mais on a l'idée, réunissait les sahaba dans Darul Arqam ibn al-Arqam à Mecca, au début de la révélation, pour leur réciter les versets qui lui venaient d'être révélés et expliquer le contenu des versets. C'est le symbolisme de se réunir pour apprendre le ilm, pour apprendre la connaissance religieuse. C'est exactement ça que nous essayons, bi'ibnillah, de développer. Et quand Allah te donne la possibilité soit de faire un voyage pour apprendre la connaissance pendant plusieurs années, c'est un grand bienfait. Mais à ton niveau, il est possible qu'une personne ait une profession, commerçant, médecin, avocat, artisan, peu importe, d'accord ? Et qu'en même temps, Allah t'ouvre les portes de la connaissance, que chaque jour, tu apprends quelque chose. Ça, c'est un grand bienfait. Aya Ali, il faudrait que chaque jour, le croyant renouvelle sa foi, renforce son iman. Parce que la personne qui reste sans connaissant, réactualiser ses connaissances, sa foi faiblit. On ne peut pas se contenter uniquement, enfin c'est entre guillemets je dis ça, des prières. Les ibadas, certes, c'est le devoir, c'est un pilier, les prières ainsi de suite, mais on a besoin d'entretenir la flamme de la foi et que ce cœur soit connecté régulièrement à la parole d'Allah. Donc c'est pour ça que ces assemblées et d'autres, tous ceux qui font des assemblées qui se basent bien sûr sur le Coran, les hadiths, des sources authentiques, ce sont des assemblées qui sont profitables. Donc l'auteur cite, lorsqu'Allah accorde à un serviteur la connaissance profitable, la connaissance religieuse, ou al-iman as-sahih, là il reprend, d'accord, la foi authentique, d'accord, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, ou al-rizq al-halal, oui on avait parlé de ça la dernière fois, une subsistance qui est licite. Alhamdoulilah, tu as une profession, tu as un magasin, tu as un travail, tu as, mashallah, une activité qui te permet de gagner ta vie honnêtement. Ça fait partie des bienfaits. وَالْقَنَاعَةَ بِمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْهُ Et la satisfaction. Avoir un cœur satisfait. Il y a des gens qui gagnent beaucoup, qui produisent de l'argent et qui en sont très fiers, mais ils n'en sont jamais satisfaits. Ils veulent toujours avoir plus. On avait cité la dernière fois l'exemple de l'estomac. C'est un hadith, la métaphore, l'estomac qui ne se remplit jamais, c'est l'homme qui aime les biens de ce monde et c'est la cupidité, c'est uniquement la terre qui va le remplir, c'est-à-dire c'est uniquement après la mort que khalas, c'est quand la personne est enterrée, cette pied sous terre, que ses ambitions prennent fin. Wallah musta'an. Wa ya la khasara, et quelle khasara, quelle désolation et quel dommage une personne qui a consacré toute sa vie uniquement a fait fructifier ses biens. Et il n'a pas mis l'adoration d'Allah au centre de sa vie. Et la société juge ces gens comme étant des personnes qui ont réussi. On va faire des reportages, on va parler d'eux, on va leur donner l'importance parce qu'il a monté telle société, il a fait ça. Bien, bien. Il n'a fait que concrétiser ce qui lui a été prédestiné. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial ? Les vertus, une vie réussie, c'est une vie où tu as développé la foi, où tu as appris la connaissance religieuse, où tu as développé cette satisfaction, le qana'a, ce qu'Allah t'a donné, shukr. Shukr ala ni'ma. Être reconnaissant. On continue. Faqad tamat umuru, c'est une personne qui aura, mashallah, la facilité, la stabilité, tant dans ce dunya, et aura, inshallah, l'ouverture et l'acceptation auprès d'Allah. Donc, je récapitule entre les deux citations différentes, la foi, la connaissance religieuse, la subsistance licite, la qana'a, la satisfaction de ce qu'Allah nous a accordé. L'auteur a cité d'autres hadiths et des citations. Il cite un hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salat wa salam nous relate « Ma ruziqa abdun khayran lahu wa la awsa'a minas sabri » Jamais un serviteur n'aura obtenu un bienfait aussi profitable de la part d'Allah que as-sabr. Et as-sabr, c'est la patience. As-sabr jamil, la patience, la belle patience. Et les savants expliquent que la patience, et ça on avait expliqué dans la synthèse de Tafsir Muzammil et Muddathir, que la patience, c'est pas subir. La patience, c'est pas je souffre, je subis et j'attends des jours meilleurs. Non. La patience doit être associée à al-ihtisab. Quand on a les hadiths qui parlent des maladies, hein, des problèmes de santé, il est cité que celui qui fait preuve de patience avec espoir de rétribution. C'est ça la vraie patience, c'est que tu intègres. C'est-à-dire, c'est la patience intelligente, on va dire. En fait, le mu'min, le croyant, dans toutes les situations de sa vie, il a le cœur éveillé et il a un comportement d'être intelligent. La pleine conscience de tout ce qui se passe. Ce n'est pas juste je subis, et puis de façon inconsciente, avec un cœur insouciant. Non, je souffre, j'ai un problème, que ce soit une maladie ou un autre genre d'épreuve. Premièrement, je sais que ça vient d'Allah. Ce n'est pas la faute d'un tel, ce n'est pas concours de circonstances, ce n'est pas que je suis né comme ça avec la malchance. Là, abadan. C'est une épreuve qui vient d'Allah. Et qu'Allah t'envoie une épreuve, c'est qu'Allah attend quelque chose de toi. Ça peut être un cumul de péchés dans ta vie. Et par cette épreuve, Allah va l'effacer. Parce qu'Allah sait que tu n'as pas le potentiel, subhanallah. Tu n'as pas le potentiel pour lui demander tawbah. Quand Allah voit que son serviteur n'a pas le potentiel pour lui demander pardon, Allah peut envoyer une épreuve pour le purifier avant qu'il retourne vers Allahu Akbar. Hikmatun baligha. Ça, c'est un Seigneur qui est Allahu Akbar, généreux et clément et miséricordieux. Miséricordieux même avec celui qui l'a désobéi. Parce qu'il ne veut, Allah ne le laissera pas mourir et retourner vers lui avec autant de péchés dans son livret de compte. Donc Allah l'envoie une épreuve. D'un regard extérieur, les gens vont juger, oh le pauvre, alité, malade, tel problème, il fait pitié, quelle fin terrible, quelle situation déplorable aux yeux des gens. Mais pour Allah, c'est un khair pour toi. Et ceux qui voient les choses avec leur foi, qui ont le basira, qui ont la clairvoyance, c'est-à-dire que toute analyse se fait à partir de la foi, ces personnes comprennent la sagesse d'Allah dans chaque situation. Donc, quand tu es éprouvé, sache que ça vient d'Allah et qu'il y a un message divin et une volonté divine à travers l'épreuve. Il y a l'acceptation, il y a le fait de se soumettre à la décision d'Allah, d'être patient, d'essayer de trouver des solutions à son problème, d'accord ? On n'est pas à la recherche de la souffrance, non, on n'est pas comme ça. Essayer de solutionner le problème, mais se dire qu'en finalité, la solution, elle est dans les mains d'Allah. Et si Allah a prédestiné pour moi des difficultés, c'est la décision divine. Et ihtisab, j'attends la récompense, incha'Allah, fil akhirah, dans l'au-delà. Donc, c'est un sixième qualité qu'Allah accorde à qui il veut, c'est la patience. Autre qualité, je n'ai pas mis le minuteur, je ne sais pas si on a 20 minutes ou 25 minutes, je ne sais pas, ah mais il y a peut-être avec le dictaphone, je peux savoir. 24 minutes, c'est bon, on a encore 5 minutes, Inch'Allah. Parmi les qualités qu'Allah accorde à qui il veut, ce qu'on retrouve dans le verset, yu'til hikmata man yasha, Allah accorde la sagesse à qui il veut. Et quand Allah t'accorde la sagesse, mashallah, c'est également un grand bienfait. Nous devons demander à Allah Azza wa Jal la sagesse. Ça fait partie des qualités que nous devons demander à Allah Azza wa Jal. Et si on avait le temps, on aurait développé le tafsir de l'Hikmata, mais on aimerait quand même terminer ce chapitre. On essaie d'avancer un peu, Inch'Allah. On a Ibn Mas'ud. Oh, ça c'est magnifique. C'est Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. C'est une citation. Ce n'est pas un hadith. Comment ça s'appelle, une citation d'un sahaba? Ça s'appelle un mawquf. Mawquf, c'est la citation d'un sahaba qui n'est pas attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si, à travers des indicateurs que les savants maîtrisent, ils voient que cela découle, c'est-à-dire il nous informe de quelque chose qui ne peut venir que du prophète alayhi salatu wa sallam, les savants disent que « Hada lahu hukmur rafi'i ». Ce mawquf, cette citation, a valeur de choses rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'est considéré comme hadith. Des fois, on insiste un peu sur tout ça. C'est pour qu'on réalise que dans l'histoire de la connaissance religieuse, il y a eu des savants qui ont consacré leur vie à la recherche de l'authenticité des sources. Et on ne peut pas se permettre de propager la religion sans qu'on ait des sources qui sont sûres. Combien de personnes prennent la parole, combien de discours basés sur des hadiths qui ne sont pas authentiques, sur des récits qui sont erronés et sur des choses qui ne découlent pas de la sunna. Qu'est-ce qu'ils auront à répondre le jour de Qiyam? Ce ilm, ça c'est din, ça. Ça c'est de la religion. On ne peut pas se prononcer sur la religion sans connaître de base. Donc le travail de tahqiq, c'est un minimum de respect envers la parole d'Allah et la parole de son prophète alayhi salatu wassalam, que de rechercher des sources et de ne pas raconter tout ce qu'on entend. Il y a des savants, comme je dis, ils ont donné leur vie pour ça. Donc on insiste beaucoup. Notre religion, elle est authentique, elle est vraie, c'est la religion de la vérité. Le Coran est protégé par Allah, les hadiths par le Prophète, on a ce bienfait qui sont les chaînes de narration, de transmission qui font que n'importe quel hadith de Bukhari, de Muslim, de Nasa'i qui sont tous authentifiés, ben on sait que ça c'est sûr, on a une conviction sur ces textes-là. Et il y en a tellement, pourquoi prendre des sources qui ne sont pas authentifiés. Hein, qu'Allah nous permet de rester dans le sahih et dans l'authenticité. Après, bon, je ne vais pas m'étaler sur d'autres choses. Khair, Inch'Allah. Hada. Ibn Mas'ud dit « Inna Allah Ta'ala qassama baynakum akhlaqakum kama qassama baynakum arzaqakum ». On va continuer en français, mais on manque un peu de temps. Allah Rabbul Izza vous a distribué vos quotas de bon comportement, tout comme il vous a distribué votre quota de rizq, de subsistance. Donc on comprend que avoir un bon comportement, c'est un bienfait qu'Allah accorde à qui il veut. Ça fait partie des qualités que nous devons demander à notre Seigneur. Ya Rab, accorde-moi le husnul khuluq, comme le prophète alayhi salat wa salam avait le meilleur des comportements. Et le meilleur des comportements, ce n'est pas uniquement quand Ali est à la masjid avec nous, et que je l'aime, fillah, et que je l'admire, et que c'est un fidèle ami. Le husnul khuluq, c'est quand tu retournes chez toi, avec ton épouse, avec tes enfants. C'est lorsque tes parents qui sont âgés t'interpellent, et parfois même après une journée de travail fatigante, harassante, on trouve quand même la patience pour les répondre correctement, leur donner leurs droits. Le husnul khuluq, le bon comportement, c'est avec ton voisin, c'est avec chaque citoyen, c'est avec tes collègues au travail. Il arrête, il a besoin de faire un dessin, on a tous compris que le bon comportement, c'est de l'authenticité. Ce n'est pas juste faire voir ou montrer quelque chose. C'est vraiment un état d'esprit qui fait que tu as une rigueur dans ton comportement et une exemplarité qui se rattache au modèle prophétique, alayhi salatu wa salam. On continue ce qu'Ibn Mas'ud dit, on va conclure avec ça. « Wa inna Allah ta'ala » Là, il parle d'autre chose, enfin, le même sujet, mais c'est une autre information. « Wa inna Allah ta'ala yu'ti al-mal man ahabba wa man la yuhibbu » Mafhoum, ya Hudhayfa ?« Wa inna Allah ta'ala yu'ti al-mal man ahabba wa man la yuhibbu » Allah accorde l'argent, les biens de ce monde, à des gens qu'il aime, mais également des gens qu'il n'aime pas. Parce qu'on avait expliqué un peu en introduction. Ce n'est pas parce que quelqu'un est riche qu'Allah l'aime. Non, tout ça, c'est insignifiant pour Allah Azza wa Jal. Mais, وَلَا يُعْطِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ Mais il n'accorde la foi qu'aux personnes qu'il aime. C'est ce ni'mat, c'est ce bienfait que nous devons chercher. Et c'est ça l'objet de nos du'as. Oh Allah, accorde-moi une foi qui est forte, qui est solide, qui me permet d'avancer dans toutes les situations de la vie, de résister au fitan, ma dhahara minha wa ma batan, de résister au péché. Oh Allah, que cette foi, que je puisse le transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants, des générations de croyants. Ça, c'est le plus important. Parce que Al-Mal, et pourquoi il fait cette comparaison? Pour qu'on réalise que l'argent, Allah donne à n'importe qui, même ceux qui le désobéissent, Allah leur accorde. Donc, ne te focalise pas sur les bienfaits de ce monde, mais focalise-toi sur la foi. Et si tu vois qu'Allah t'a accordé iman, fais preuve de gratitude. Remercie Allah et travaille ce iman. Et notre prophète, alayhi salat wa sallam, on clôture avec ce hadith de Anas bin Malik, radiallahu anhu. Le hadith était rapporté par Al-Hakim. Al-Hakim. Dans un ouvrage qui s'appelle Al-Mustadrak. Est-ce que Al-Hakim fait partie des six grands livres? Non. Mais Al-Hakim a des hadiths qui sont corrects et d'autres qui le sont moins. Mais ce hadith a été authentifié par un grand chercheur, un contemporain, Al-Albani, rahimahullah. Mais avant Al-Albani, il y en a eu d'autres. Là aussi, il y a des gens qui disent que c'est Al-Albani, c'est le top. Attends, avant Al-Albani, il y a eu Zahabi. Il y a eu d'autres grands savants qui ont fait encore plus d'efforts. Donc là aussi, il faut une certaine cohérence et voir dans l'histoire même des savants et ne pas se dire qu'il n'y a que Cheikh Al-Albani et rien d'autre. Non, ça aussi, c'est un comportement qui n'est pas adapté. Bref. Al-Albani a authentifié ce hadith dans lequel le professeur me dit qu'il avait l'habitude de dire, c'est un doua. Et peut-être que nous pourrons mémoriser ce doua et le faire. J'ai un professeur qui le faisait souvent. Quand il un prof de Aqida, avant les cours, il lisait ce doua. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ou Allah, donne-moi la possibilité de tirer profit de ce que tu m'as accordé comme connaissance. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Ya Rabb, accorde-moi la connaissance de choses qui me seront profitables. C'est ce que le prophète disait dans d'autres termes, ilman nafi'a, une connaissance qui est profitable. Warzuqni ilman tanfa'uni bihi, et accorde-moi une connaissance par laquelle qui me sera profitable et qui me permettra, comprenez, d'être profitable aux autres. Donc c'est une doua du prophète alayhi salatu wasalam, et ça nous permet de réaliser également que la connaissance religieuse, certes, on a dit tout à l'heure que c'est un grand bienfait, mais attention, chaque bienfait est à double tranchant. Quand Allah t'accorde un bienfait, Allah observe comment est-ce que tu agis. Le frère mémorise le Coran, mashallah. Tout le monde va dire, ah, mashallah, à la réunion, on a, alhamdulillah, on fabrique, on en a, très bien, très bien, très bien. N'oublions pas que le prophète alayhi salat a dit que le Coran est hujjatun laka aw alayk. Le Coran, le jour de Qiyama, soit il se place en ta faveur, il va t'aider, il va te permettre de t'élever. On connaît le hadith que celui qui connaît le Coran, à chaque verset, va monter d'un grade du paradis, il aura des vêtements de lumière à ses parents. On connaît ce hadith. Et on les entend quand il y a des khatm al-Quran, de hifd et tout. Mais ça, c'est pour celui qui a bien agi avec le Coran, qui l'a mis en application, qui a vécu selon le Coran, comme le prophète alayhi salatu wassalam avait cette spécificité, kana khulquhu al-Quran, son comportement, toute sa vie, c'était le Coran. Mais la personne qui a le Coran, qui mémorise, mais qui a un comportement décadent de la société, et qui a des valeurs, Allah musta'an, totalement contraires à l'esprit du Coran, attention, le jour de Qiyama, le Coran se retournera contre lui. Allah lui a accordé un bienfait, mais il n'en a pas profit. Donc, la connaissance religieuse également, c'est pas uniquement que quelqu'un est diplômé, il est alim, ben c'est bon, on le sacralise. Non, on ne le sacralise pas. Allah connaît le contenu, le cœur de chacun. Il a la connaissance, on le respecte. Pas la connaissance qu'Allah lui a accordée, mais ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que d'autres. Imaginez que quelqu'un cumule de connaissances religieuses. Il connaît tous les livres, hadiths et tout, mais il va à l'encontre de tout ce qu'il connaît. Ça fait de lui quelqu'un de bien. Attention. Allah lui accorde un bienfait, mais il ne tire pas profit de ce bienfait, il ne respecte pas ce bienfait. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on doit demander à Allah de guider nos cœurs. Et de la salat al-mustaqim, ça reste le doua le plus important. Même une personne a le Coran, a la connaissance, il faut qu'Allah guide nos cœurs et nous garde dans le droit chemin. On va s'arrêter à là, Inch'Allah, qu'Allah Rabbul Izzah ait la possibilité de comprendre ces quelques paroles. Je pense qu'avant on va dire les vacances de janvier, dans la semaine prochaine, on sera à Montreuil. On va clôturer le livre de Suyuti, Inch'Allah, rahimahullah, la semaine prochaine. Et on va passer à autre chose, Inch'Allah, en 2021. Inch'Allah nous accorde longue vie, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège une troisième vague. J'espère que c'est terminé tout ça. D'accord. Et on va essayer, je pense qu'on aura encore un dars sur cette thématique de Ar-Razzaq. Et puis, Inch'Allah, on verra qu'Allah nous accepte et nous permet d'avancer. Subhanallah, Rabbika, Rabbil Izzati, Amma Yasifun. Salamun ala al-mursalin, alhamdulillah. Jazakumullah khairan.